Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Arnaud Benedetti. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, professeur associé à l'Université de Paris-Sorbonne. Alors une nouvelle fois, la situation au Proche-Orient s'impose dans le débat politique en France. L'attaque menée par l'Iran contre Israël, qui dans deux heures fera l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, a suscité de vives condamnations dans le monde et des appels à la retenue. C'est le cas en France, quels que soient les partis. Et que résume l'ancien président François Hollande ?
La France doit surtout, dans cet instant, à la fois assurer à Israël son soutien, puisque Israël a été directement visé par une attaque de la part de l'Iran, mais chercher les moyens de la désescalade, c'est-à-dire d'utiliser ce qui a été à un moment un fait quand même très grave pour aller maintenant vers l'arrêt des hostilités à Gaza et vers un processus de paix. Maintenant, Israël doit comprendre, et le gouvernement Netanyahou, qu'il a tout avantage à arrêter le conflit.
Arnaud Benedetti, toutes les études d'opinion le montrent, le principal sujet de préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat, 54%, alors que les sujets internationaux ne sont cités que par 12% des personnes interrogées. Pour autant, la guerre ailleurs finit toujours par avoir des conséquences sur le portefeuille ici, en France.
Ah oui, clairement, surtout une guerre au Proche et au Moyen-Orient, avec les conséquences que ça peut avoir, par exemple, sur le coût du baril de pétrole. Donc ça peut avoir un impact direct sur, j'allais dire, le pouvoir d'achat des Français. Mais c'est pas perçu ainsi, en tout cas pour l'instant. On voit bien que dans la perspective de cette élection européenne, ce sont plutôt des enjeux en effet intérieurs qui prédominent dans les préoccupations des Français, et qu'il s'agisse en effet celle du pouvoir d'achat, qui n'est encore une fois pas sans lien avec celle de la guerre. On l'a vu notamment avec la guerre en Ukraine, même si l'inflation avait quand même commencé avant le démarrage de la guerre en Ukraine, mais aussi d'autres sujets comme les sujets par exemple de sécurité ou les sujets d'éducation ou de santé, qui sont très largement dominants dans toutes les études d'opinion. D'ailleurs, on le voit depuis maintenant plusieurs mois et plusieurs semaines encore, à quelques encablures de cette élection européenne.
Dans 8 semaines aura lieu l'élection au Parlement européen. L'occasion pour le journal Le Parisien de publier un sondage Ipsos qui confirme que le RN est en tête des intentions de vote, mais avec 2 points de plus que jusque-là. Son score serait de 32% contre 6,5% seulement pour LR. François-Xavier Bellamy, qui mène la liste des Républicains, réagissait donc de cette manière sur RTL ce midi.
Vous savez, le Rassemblement National fait rêver les gens en leur disant « Vivement le 9 juin, on va gagner l'élection européenne et ça va tout changer ». Mais le RN a déjà gagné l'élection européenne. J'entends des Français qui disent « On les a pas essayés ». Mais si, vous les avez essayés. Vous leur avez fait confiance. Ils ont gagné en 2019. Ils ont même gagné en 2014. Qu'est-ce qu'eux aussi ont fait des voix qui leur étaient confiées ? Ils avaient le plus grand nombre de députés au Parlement européen et malgré ça, ils n'auront pas déplacé une virgule dans un seul texte européen. Ils n'auront pas gagné une bataille. Je dis même pas gagné une bataille. Ils n'auront pas mené une seule bataille. La victoire du Rassemblement national dans 2 mois, ce serait en réalité la victoire du statu quo. Le RN vient de se déjuger complètement sur les sujets d'immigration la semaine dernière au Parlement européen, comme il s'est déjugé sur l'Europe, comme il s'est déjugé sur l'OTAN. Ils n'ont même pas eu besoin d'être en responsabilité pour se renier sur tous les sujets.
Le RN à 32% devant Renaissance. Le parti présidentiel à 16%, on en parlera tout à l'heure. Et en troisième place, la liste PS et Place Publique emmenée par Raphaël Glucksmann avec 13% en hausse de 1,5 point. Le chef du PS, Olivier Faure, ne peut qu'être satisfait.
Je reste prudent, mais ça indique quelque chose que je retrouve chaque semaine sur le terrain, sur les marchés, dans les meetings. Il y en était hier avec Raphaël, c'était à Nantes avec Johanna Roland, et il y avait là une foule que nous n'avions pas connue depuis très longtemps. Phénomène assez particulier, beaucoup de gens qui ne sont pas des militants, qui sont des gens qui sont venus parce qu'ils sont attirés par l'offre politique que porte Raphaël. Ce sont des Françaises et des Français qui, à chaque élection, s'interrogent sur la question de savoir qui est celui qui est le plus à même de porter leurs espérances. Et ils ont pu voter pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, ou pour Emmanuel Macron, ou pour d'autres. Mais surtout, la question qu'ils se posent, c'est comment est-ce qu'on fait pour être à la fois aujourd'hui parfaitement européen, parfaitement clair sur les questions internationales, et en même temps parfaitement à l'aise avec la question de la justice sociale et fiscale. Et ces gens-là se retrouvent aujourd'hui dans la candidature de Raphaël Glucksmann.
La marge d'erreur étant de presque 3%, la deuxième marge du podium apparaît désormais accessible pour le candidat investi par le PS et Place Publique. Et cela rend donc le parti présidentiel très nerveux, d'où ces propos aigres du ministre Jean-Noël Barrot.
Raphaël Glucksmann, c'est un Européen d'apparat. Il a raté tous ses grands rendez-vous avec l'Europe. L'Europe du plan de relance pour le sauvetage de nos emplois, de nos entreprises et des agriculteurs, il ne l'a pas voté. L'Europe de la sécurité, avec le renforcement d'Europol, la police européenne, qui démantèle les réseaux européens de trafiquants et criminels. Il ne l'a pas voté. L'Europe des frontières, le pacte sur les migrations et l'asile, il ne l'a pas voté. S'il y avait une taxe lapin pour les rendez-vous européens non honorés, je puis vous dire que Raphaël Glucksmann serait sans doute le plus gros contributeur.
Arnaud Benedetti, on voit donc que le parti présidentiel serre un peu les fesses, si vous me permettez l'expression, sachant que le Parti socialiste remonte semaine après semaine dans les sondages.
Ben, vous savez, le parti présidentiel, le parti de la majorité, aujourd'hui, il a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de ne pas être trop distancé par le Rassemblement national qui, aujourd'hui, étude d'opinion après étude d'opinion, semble caracolé et presque inaccessible dans cette élection européenne, puisque là, le dernier sondage Ipsos montre que la liste de Jordan Bardella ferait le double de celle de Mme Hayet, ce qui est quand même considérable. Ensuite, il a un deuxième objectif, en effet, c'est de résister à ce qui apparaît comme une émulsion ou un frémissement du côté de l'offre social-démocrate, c'est-à-dire celle du Parti Socialiste, la liste du Parti Socialiste qui est conduite par M. Glucksmann. C'est vrai que M. Glucksmann a, disons quelque part, une fenêtre d'opportunité qui peut, en tout cas, théoriquement, parce que après, c'est dans les urnes hein, que tout cela se matérialise, qui peut apparaître comme propice et favorable. Parce qu'il y a une partie de la gauche qui peut considérer que la radicalisation, par exemple, de M. Mélenchon fait l'effet de repoussoir. Et cette partie de la gauche qui avait pu voter, par exemple, au premier tour de l'élection présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon, ben, va se retrouver, d'une certaine manière, naturellement, dans l'offre incarnée par M. Glucksmann. Et une partie de ce centre-gauche qui avait voté d'ailleurs avec enthousiasme en 2017 pour M. Macron, avec plus de résignation en 2022 pour M. Macron, va trouver qu'il y a une forme de droitisation, une forme de triangulation à droite, notamment on l'a vu lors de la discussion de la loi sur l'immigration, et elle peut se retrouver dans l'offre de M. Glucksmann. Donc là, en l'occurrence, en effet, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, et le danger en effet aujourd'hui pour la liste conduite par Mme Hayet, c'est de se retrouver, j'allais dire, au coude à coude, voire dépasser le soir du 9 juin par la liste du Parti Socialiste.
Encore un peu d'arithmétique concernant l'extrême droite. Le RN à 32%. Reconquête d'Éric Zemmour à 6,5%. Au bout du compte, ça veut dire que l'extrême droite, selon ce sondage Ipsos, serait aujourd'hui à 38,5%.
Oui, quasiment 40%. Ouais. Quasiment 40%, c'est un score qui serait en effet tout à fait historique pour ce côté de l'échiquier politique. Ce qui est clair, c'est que si vous voulez, surtout du côté de M. Bardella et du Rassemblement National, il y a quelque chose qui peut être utilisé comme une arme anti-Macron. C'est-à-dire que ce qui domine, ce qui peut dominer dans cette élection européenne, ce qui est souvent le cas dans les élections européennes, c'est évidemment un vote sanction pour l'exécutif et pour le gouvernement. Et plus M. Bardella apparaît haut dans les sondages, plus le bulletin de vote Bardella peut être considéré comme un vote utile pour exprimer cet anti-macronisme, notamment à droite. Et c'est bien évidemment ce sur quoi escompte aujourd'hui le Rassemblement National. Quant à Reconquête, là, il y a une bataille entre Reconquête et M. Bellamy. Parce que si vous regardez l'étude Ipsos, ils ont le même pourcentage en termes d'intention de vote. Ils sont à 6,5. Donc là aussi, il y a un sujet qui, pour le coup, se pose pour la liste LR, c'est d'être bien évidemment devant la liste Reconquête et le plus haut possible, c'est-à-dire d'essayer de réaliser le score au moins qui était celui des LR en 2019, c'est-à-dire 8,5%.
Vous l'évoquiez, on va y revenir, c'est le parti présidentiel dans tout cela. Valérie Gasse, chef du service politique de RFI, tout d'abord, avant vos analyses, Arnaud Benedetti. Commentaire Valérie Gasse, Emmanuel Macron compte s'engager dans la campagne, est-ce qu'il peut sauver son parti ?
Eh bien, c'est toute la question. L'Europe, c'est l'ADN politique d'Emmanuel Macron, sa conviction profonde. Dès sa première élection, il en avait fait un étendard, une promesse, un programme, décliné dans un discours prononcé à la Sorbonne en septembre 2017. Un discours qui commençait par ces mots « Je suis venu vous parler d'Europe ». Alors, avant l'élection du 9 juin, le président entend revenir parler d'Europe aux Français et aux Européens. Ce nouveau discours que certains appellent « Sorbonne 2 », il en est question depuis longtemps. Le chef de l'État attend le bon moment pour le prononcer et pour un sénateur centriste, il va marquer une étape dans une campagne où jusqu'à présent les joutes entre les candidats portent surtout sur des questions nationales. À un moment, il faut parler d'Europe, déclare-t-il. Et qui mieux placé qu'Emmanuel Macron lui-même pour le faire, puisque selon un ministre, le seul qui porte un discours sur l'Europe, c'est lui.
Alors est-ce que l'implication du chef de l'État dans la campagne peut s'avérer être un coup gagnant ?
Il y a deux visions des choses. D'abord, la vision optimiste. L'entrée en liste du président, c'est un coup de pouce pour la tête de liste. Valérie Ayer, en mal de notoriété, à entendre une ministre, si on mobilise l'électorat d'Emmanuel Macron en 2022, on gagne. Ça pèse plutôt pour que le président s'engage. C'est très identitaire et attendu par notre électorat. Dans une élection comme les européennes, où l'abstention est forte, la cible identifiée, c'est en effet le noyau dur. Il faut mobiliser notre socle, parler à nos propres électeurs, explique encore un autre membre du gouvernement. Mais il ajoute aussi qu'il y a un risque qu'Emmanuel Macron mobilise les autres contre nous.
Alors est-ce qu'il pourrait justement y avoir un effet repoussoir ?
Eh bien oui, certains le craignent. On est dans un macronisme moins triomphant qu'en 2019, date des dernières élections européennes, estime un proche d'Édouard Philippe qui poursuit en s'interrogeant. Si Macron agace beaucoup les gens, ils vont peut-être lui envoyer un message. Une députée Renaissance est encore plus sévère. Pour elle, le président sous-estime le rejet dont il fait l'objet. Et l'opposition, RN en tête, veut faire de ces européennes un test national contre le chef de l'État. Un parlementaire de la majorité résume la situation. Emmanuel Macron est à la fois celui qui inspire et un répulsif. Ce sera donc acquis tout double.
Alors, rejet, repoussoir, répulsif, vient de dire Valérie Gasse. Vous en pensez quoi, Arnaud Benedetti ?
Vous savez, c'est ce que je disais précédemment. Le risque du vote sanction sur la personnalité et sur l'exercice du pouvoir du président de la République est réel. Parce que la situation est très différente de celle de 2019. En 2019, le président de la République n'avait été élu que depuis 2 ans. Aujourd'hui, nous entrons dans la 7e année, j'allais dire, de la présidence Macron depuis sa réélection en 2022. Donc il y a en plus, si vous voulez, à ce risque de, j'allais dire, de votre poussoir, de votre sanction, l'effet d'usure qui gagne inévitablement tous les présidents qui ont été réélus sous la 5e République.
Écoutons maintenant ce que disait aujourd'hui François-Xavier Bellamy, qui emmène donc la liste des Républicains. Il explique clairement le rapport de force au Parlement européen pour, bien sûr, placer ses pions.
Moi, je n'ai jamais cru que la démocratie pouvait signifier le « en même temps ». Il y a une gauche et il y a une droite. Il y a dans ce pays une majorité d'électeurs de droite qui veulent plus d'autorité à l'école, qui veulent plus d'ordre dans la rue, qui veulent plus d'équilibre dans les comptes, qui veulent juste retrouver la sécurité, qui veulent retrouver l'action d'un État régalien qui assume ses missions. Le vrai débat européen, il est entre les deux grands groupes qui structurent le Parlement européen. D'un côté, le PPE, la droite européenne, auquel appartient les Républicains, et de l'autre côté, le groupe socialiste. Et pendant ce mandat, qu'est-ce que nous avons vécu ? Nous avons vu la situation dans laquelle le groupe socialiste a pu bénéficier d'alliés solides pour organiser la décroissance agricole, la décroissance économique et industrielle, pour organiser l'impuissance migratoire. Ces alliés, c'était l'extrême-gauche, les Verts et les députés macronistes. Et la candidate d'Emmanuel Macron commence d'ailleurs sa campagne en disant « J'assume de voter 90% avec les socialistes ».
La tête de liste LR a-t-elle raison de dire, Arnaud Benedetti, qu'il n'y a pas au Parlement un clivage politique aussi important qu'au Parlement français ?
Oui, il a parfaitement raison, parce qu'on sait très bien que depuis des années, il y a quand même un accord entre les socialistes et les conservateurs, le PPE, ne serait-ce que pour se partager la présidence du Parlement européen. Et on voit quand même que sur un certain nombre de textes, les deux grandes formations qui structurent le Parlement européen peuvent voter ensemble, avec une petite différence, parce qu'on a vu quand même une évolution au sein, en tout cas d'une partie du PPE depuis 2019, surtout à partir de 2021-2022, on a vu un certain... Les troupes du PPE n'ont pas toutes voté avec les socialistes sur un certain nombre de textes. Donc c'est bien évidemment ce à quoi fait référence aujourd'hui Monsieur Bellamy. Mais le problème, si vous voulez, de LR aujourd'hui, le problème, c'est pas tant Monsieur Bellamy que la marque LR vis-à-vis de l'électorat de droite. La marque LR est une marque qui aujourd'hui est associée à l'exercice du pouvoir depuis un certain nombre d'années, depuis un certain nombre de décennies, et une partie de l'électorat de droite ne semble plus se retrouver dans cette marque. Alors il y a une partie qui est partie chez Monsieur Macron, et puis il y a une autre partie qui aujourd'hui est manifestement, ou là a déjà été, tentée par le vote pour le Rassemblement National, voire parfois, dans un certain nombre de territoires, un vote en faveur de la liste Reconquête.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Encore une fois ce dimanche, il est question des conséquences politiques du déficit de l'État, 5,5% du PIB, c'est-à-dire de la richesse. Que faire ? Réduire les dépenses ou augmenter les recettes et donc les impôts ? La réponse du chef de l'État qui était jeudi à Bergerac pour poser la première pierre d'une usine de poudre pour obus.
Est-ce que notre stratégie est mauvaise ? Non, elle produit des résultats. On est les plus attractifs d'Europe, on a une des meilleures croissances de la zone euro, on crée des emplois et on se rapproche des autres là où on avait une maladie française qui était le chômage, on a baissé de 2 points. Et donc la ligne, elle est simple, elle a été réaffirmée. 1, on garde le cap. Plein emploi, réindustrialisation, réarmement de nos services publics. 2, on ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce problème, ce choc conjoncturel par plus d'impôts. Maladie française, ça enlèverait de la confiance. 3, on est responsable, ce choc conjoncturel, on doit y répondre de manière appropriée et tout de suite. Ça a été les premières économies sur le financement de l'État. Et c'est deuxième partie, après le même taux d'effort d'économie, pour tenir un déficit.
Alors ces propos suscitent une vive réaction de la part du chef du Parti Socialiste, Olivier Faure, sur France Inter.
Je trouve ça extraordinaire. Vous avez quelqu'un qui vous annonce un déficit qui, en fait, explose. Tout le monde voit que le mur se rapproche. Et le voilà qui nous dit « je garde le cap ». C'est juste incroyable. Vous avez quelqu'un dont on a un moment dit qu'il était le Mozart de la finance, mais c'est un requiem pour nos finances publiques. On est aujourd'hui dans une situation qui est proprement inconsidérée. Si aujourd'hui l'État est impécunieux, c'est parce que vous avez, depuis que ce gouvernement est en place, 50 milliards de cadeaux fiscaux qui ont été donnés chaque année aux plus riches et aux grandes entreprises. Quand le chef de l'État vous dit « je ne veux pas augmenter les impôts ».
Impôts, maladie française.
Mais maladie française. Enfin, personne ne parle d'augmenter les impôts des plus modestes, des classes moyennes, etc. En revanche, est-ce que vous trouvez logique qu'il y ait des gens qui profitent de toutes les crises sanitaires, géopolitiques, énergétiques et à qui on ne demande rien ? Je demande à ce que les super profits soient évidemment taxés.
Faire payer les riches est donc à nouveau un marqueur fort de la gauche. L'exécutif doit trouver de l'argent. Pas sûr que la représentation nationale ait son mot à dire sur les économies à faire. D'ailleurs, le président du Sénat regrette que le gouvernement ait rejeté ses propositions de baisse des dépenses. Et concernant le fait que le président de la République ne propose pas de loi de finances rectificative pour 2024, dans le journal du dimanche, il dit que c'est inacceptable. Il veut éviter le débat parlementaire. Vous êtes un fin connaisseur de la vie parlementaire, justement, Arnaud Benedetti. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a une perte de poids du législatif ?
Alors je ne sais pas s'il y a une perte de poids du législatif, c'est que c'est clair que le président de la République et son gouvernement ne veulent pas présenter un projet de loi de finances rectificative. Et on comprend la raison pour laquelle ils s'abstiennent de passer devant le Parlement, comme la logique devrait d'ailleurs les inciter à le faire, tout simplement parce que le risque est grand aujourd'hui que les LR se saisissent du sujet, un sujet qui est le leur, en plus celui de la maîtrise de la dépense publique, qui était au cœur d'ailleurs du programme, avec le succès que l'on sait Madame Pécresse en 2022, le risque est grand qu'une motion de censure soit déposée par le groupe LR. Et aujourd'hui, lorsque l'on entend les déclarations d'un certain nombre de responsables de groupes parlementaires, tant à gauche qu'à droite ou qu'à l'extrême droite, la plupart de ces responsables disent qu'ils s'associeraient au vote d'une motion de censure. Donc le risque est très grand aujourd'hui, en effet, pour un gouvernement qui viendrait déposer un projet de loi de finances rectificative, en plus dans l'attente, il ne faut pas l'oublier, de la réactualisation des agences de notation, le risque est grand d'une motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement Attal.
Merci pour ces analyses et commentaires. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et on peut retrouver vos analyses, celles-ci comme d'autres, dans un livre intitulé « Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir ?» Un livre publié par les éditions du Cerf. Afrique.